France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, Héraclès était le plus populaire des héros. Son nom, ses images, ses histoires étaient partout. On n'arrêtait pas de parler de lui, de le représenter. Les anecdotes, les récits sur Héraclès proliféraient. C'est un vrai maquis d'histoire, très touffu.
Moi, j'ai réussi à tuer un horrible monstre, l'hydre de Lerne.
Héraclès a à son actif un nombre incroyable de victoires sur des monstres, tous vraiment horribles, sur des brigands, et un nombre incroyable de conquêtes amoureuses, ou pas vraiment amoureuses, pour les femmes conquises.
Je n'ai jamais connu la peur.
Il lui est même arrivé de combattre et de blesser des dieux olympiens, sans aucun scrupule. Mais il a aussi à son actif, si on peut dire, un nombre très élevé de déconvenues, de défaites, de soumissions. Pendant toute sa vie, Héraclès n'a jamais été libre. Il a dû travailler durement pour le service d'un autre, un plutôt pauvre type. Et toute sa vie durant, il a dû subir la jalousie enflammée de l'épouse légitime de Zeus, la déesse Héra, qui n'a cessé de le persécuter.
Il n'existe sur Terre aucune épreuve qui puisse m'épouvanter.
Quand les dieux rôdaient sur la Terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Il faut dire qu'Héraclès est un fils totalement illégitime de Zeus. Le roi des dieux, Zeus, l'a engendré en trompant sans aucun remords sa femme Héra avec une femme mortelle. La déesse s'est vengée. Toute la force et tous les problèmes d'Héraclès remontent à sa naissance, qui est plus que bizarre. Nous en avons parlé la semaine dernière. La naissance d'Héraclès est double, ambiguë, loufoque. On ne peut la souhaiter à personne. Zeus avait repéré la très belle Alcmène, qui était de très bonne famille, puisque c'était la descendante d'un de ses fils, le beau et courageux Persée. Et si on remonte encore, cette Alcmène avait comme ancêtre la belle Io, cette femme errante qui avait accouché d'un enfant de Zeus en Égypte. Zeus avait donc soin des lignées qu'il avait créées, puisqu'il s'appliquait à en renouveler le caractère divin par des conquêtes successives, génération après génération. Il voulait donc conquérir cette Alcmène et lui faire un enfant. Cet enfant sera Héraclès. Mais Zeus savait que la belle Alcmène était très vertueuse. Elle était mariée au bel Amphitryon, un guerrier. Elle aimait son mari et entendait lui rester fidèle. Mais cela ne saurait arrêter Zeus, le roi des dieux. Pour séduire Alcmène, Zeus n'avait pas le choix. Il prit l'apparence physique du mari et vint trouver Alcmène la nuit chez elle, pendant que cet Amphitryon était absent. L'union a lieu, Alcmène est enceinte. Ça se complique quand le vrai Amphitryon, le mari, revient chez lui. Il doit comprendre qu'être cocufié par Zeus lui-même est un privilège qui ne se discute pas. Une légende dit qu'Alcmène a connu la même nuit les deux Amphitryons, d'abord le faux, à savoir Zeus, puis le vrai. Elle aurait accouché de deux jumeaux, Héraclès, qui serait le fils de Zeus, et un certain Iphiclès, qui serait l'enfant du vrai Amphitryon. Son nom Iphiclès veut dire « glorieux » par sa force. La naissance elle-même a été elle aussi toute une aventure. Le jour où Héraclès devait naître, Zeus a bêtement juré devant les dieux de l'Olympe que l'enfant de son sang qui allait naître ce jour même serait le roi de la ville d'Argos, la ville d'Amphitryon et d'Alcmène. Il pensait évidemment que ce serait Héraclès. Héra, plus que jalouse, se débrouilla pour que juste avant Héraclès naisse un autre bébé, un prématuré, qui était aussi de la lignée de Zeus. Ce bambin s'appelait Eurysthée. Il était nettement plus faible qu'Héraclès, mais il est né avant lui. Pendant toute sa vie, Héraclès a dû se soumettre à ce cousin, qui lui a ordonné d'accomplir les 12 fameux travaux, 12 épreuves invraisemblables, dont Héraclès, normalement, n'aurait pas dû sortir vivant. Pour rendre encore plus rocambolesque la naissance d'Héraclès, Héra essaya de supprimer le nourrisson. Elle fit entrer dans la chambre où Héraclès dormait avec son frère ou demi-frère, Iphiclès, deux grands serpents. Le bambin, Héraclès, n'eut pas peur. Il se redressa et étouffa les deux serpents. Tout le monde était stupéfait. Nous en étions là, la semaine dernière.
Lève ta garde.
Il a fallu éduquer ce petit garçon.
Touché. Tu te protèges mal, Hercule.
Comme tout jeune grec aristocrate,
touché.
Héraclès eut droit à une instruction pluridisciplinaire.
Touché.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas très bon dans toutes les disciplines. Son père, ou pseudo-père humain, Amphitryon, lui apprit l'art des chevaux. Un autre lui enseigna la lutte, un autre encore le tir à l'arc. Discipline où Héraclès allait exceller durant toute sa vie. Sa formation à la musique a été confiée à un certain Linos, dont on dit parfois qu'il était le frère d'Orphée, ce poète miraculeux qui savait charmer les rochers, les arbres, les fleuves, les animaux, les dieux, les humains, qu'ils soient vivants ou morts. Linos, lui, le modeste frère d'Orphée, essayait tant bien que mal d'enseigner à Héraclès comment on joue de la cithare.
Ne tire pas sur les cordes, pince-les, comme ton frère, c'est très bien.
Cette formation était essentielle.
Plus de concentration.
Tout jeune héros devait savoir comment faire la guerre, combattre, gagner des épreuves sportives. Mais il devait aussi savoir chanter en s'accompagnant de la lyre ou cithare pour célébrer les exploits des héros du passé. Pour être un homme accompli, il fallait être à la fois guerrier, faire du sport et connaître les arts. L'un n'allait pas sans l'autre. Quand Achille ne combattait pas, Homère nous dit qu'il chantait des épopées avec sa lyre. En ces temps héroïques, qui vouaient un grand culte à l'action et à l'efficacité, les études littéraires et musicales n'étaient pas décriées pour autant, comme elles le sont maintenant. Au contraire, on avait compris qu'elles étaient nécessaires. Linos peinait à inculquer les bases de la cithare à Héraclès, qui n'était vraiment pas doué.
Ce ne sont plus des voyous de chat, Hercule. Je veux entendre des cordes. Tu n'entreras donc jamais dans ta cervelle bornée. Appuie-toi.
Un jour, il donna une tape à Héraclès parce qu'il n'apprenait rien. Linos n'était donc pas un adepte de l'éducation positive. Héraclès répliqua, prit un tabouret et assomma le pauvre Linos, qui mourut. Il y eut un procès. Héraclès fut innocenté. On déclara qu'il avait agi en état de légitime défense. On ne parla plus jamais d'un Héraclès chantant. Mais le nom de Linos est devenu un cri poétique de lamentation, de pleurs. On chantait pour la tristesse. Aï Linon, aï Linon. Par précaution quand même, Amphitryon envoie Héraclès à la campagne pour qu'il n'assomme pas trop de professeurs. Là, Héraclès, bien formé en l'éducation physique, accomplit son premier exploit. Un lion ravageait les troupeaux d'Amphitryon et aussi ceux d'un dénommé Ptespios, roi d'une ville voisine. Héraclès se propose de le supprimer. Il va voir ce Ptespios, qui est ébloui par l'aspect du jeune homme. Héraclès ne ressemble par sa puissance, ses muscles, sa splendeur, par son regard de feu, à aucun être humain normal. On voit qu'il est fils d'un dieu. Ptespios n'a qu'une envie, avoir cet Héraclès comme gendre. Comme il a 50 filles, il reçoit Héraclès pendant 50 jours, et chaque nuit, il s'arrange pour qu'Héraclès couche avec une de ses filles.
Oh.
Cet exploit est très célèbre. On dit parfois qu'il n'a fallu qu'une seule nuit pour toute cette série, ou parfois 7. Parfois, on dit que seulement 49 filles de Ptespios cédèrent. On dit aussi qu'Héraclès pensa qu'il s'agissait toujours de la même fille. C'était la nuit. Les enfants qu'Héraclès eut des 50 ou 49 filles de Ptespios essaimèrent par la suite dans des lieux qui étaient encore sauvages, comme la Sardaigne. Héraclès avait ainsi contribué à peupler la terre, mais sans le savoir. Il faut dire qu'il était un peu benêt encore. Puis, après ces nuits ou cette nuit, Héraclès eut encore assez de force pour tuer le lion. Héraclès est désormais un jeune héros en pleine capacité. Il peut commencer sa carrière. Pour cela, il doit confirmer sa qualité de grand héros par un grand exploit, utile à sa communauté et pas seulement par des prouesses de bon chasseur ou par une grande performance érotique. Cet exploit aura lieu. La ville de Thèbes, où est né Héraclès, était en conflit avec une ville voisine. Thèbes devait payer à cette ville, Orchomène, un très lourd impôt. Héraclès va libérer Thèbes de cette obligation. Il commence par mutiler sauvagement les émissaires de cette ville qui étaient venus réclamer l'impôt. Puis, comme les autres n'étaient pas contents et avaient envoyé une armée, Héraclès coince cette armée dans un étroit défilé et la massacre. Amphitryon, son père humain, meurt dans ce combat. Mais Héraclès est victorieux. Il est vraiment adulte. Il a remplacé son père, Amphitryon. C'est une consécration.
Zeus ne t'abandonnera jamais. Confiance, il est ton père. Ton destin est en marche. Tu vas devenir un héros. Tu trouveras la force en toi. Elle émergera. Le dieu est vivant en toi.
Le roi de Thèbes, Créon, lui donne sa fille à marier, Mégara, et lui confie la direction politique de la ville. Héraclès fonde une famille, il a des enfants, il a du pouvoir dans une cité, il est heureux. Et lui, l'étranger, il est bien établi dans une ville grecque très fameuse, Thèbes, la merveilleuse ville aux sept portes. Les dieux lui donnent tous les signes qui font désormais de lui un grand chef béni des dieux. Hermès lui donne une épée, Apollon des flèches, Héphaïstos une cuirasse. La déesse Athéna lui fait un cadeau très étrange, déroutant. Elle ne lui offre pas des armes, mais un vêtement féminin, un péplos, c'est-à-dire un tissu, une robe. Un péplos est en général un tissu précieux brodé que portent les femmes, comme Athéna, quand elle ne fait pas la guerre. Tiens, c'est étrange. Le mot péplos désigne parfois un vêtement souple, ample, porté par des hommes, mais ce tissu renvoie plutôt à un univers féminin. Laissons cela pour l'instant. On verra que le surmâle, qu'est Héraclès, a des côtés féminins.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Torse en avant, élance au poing, peau de lion, cousue sur les reins, barbe en broussaille et œil féroce. Hercule avance dans les bois, mais ses ennemis aux abois ignorent que déjà, petit gosse, Hercule rêve d'être une femme. Hercule traînait au gynécée, passait des heures à caresser les bouts de sous des courtisanes. Hercule rêve d'être une femme, tissait des bas en fil d'Écosse, parfumait sa barbe précoce et pleurait, pleurait à chaudes larmes. Muscles tendus et regard fier, la réputation plus à faire de bon père, amant et soldat. Couvert de trophées, de médailles, mais au cœur des pires batailles, un frisson le poursuit tout bas. Hercule rêve d'être une femme, Hercule aspire à être mère, tricote des jolies brassières, raconte au chat ses états d'âme. Hercule rêve d'être une femme, palpe ses pectoraux d'acier et son ventre à jamais scellé, et pleure, pleure à chaudes larmes. Hercule rêve d'être une femme, être dessous, être soumise, être le cul sous la chemise, être le fourreau sous la lame. Hercule rêve d'être une femme, mais une érection affolante le tire de ses rêveries brûlantes. Il pleure, pleure à chaudes larmes. «
Pierre Judet de la Combe parle d'Héraclès, le chasseur de monstres.
Héraclès devient un héros célèbre dans toute la Grèce. Or, vous vous souvenez, Héraclès avait ce cousin Eurysthée, qui était devenu grâce à Héra, le roi de la ville d'Argos, et de toute la région de l'Argolide, dans le Péloponnèse. Héra s'était débrouillé pour le faire naître juste avant Héraclès, par une ruse que Zeus n'avait pas vu venir. Héra avait obtenu que cet Eurysthée ait pleine autorité sur Héraclès, qu'il dispose de lui. Après la grande victoire remportée à Thèbes par Héraclès, Eurysthée est jaloux de la gloire de son cousin, de l'importance qu'il est en train de gagner dans toute la Grèce. Eurysthée a peur. Il rappelle à Héraclès qu'il lui doit le respect, puisqu'il est né après. Il veut mettre Héraclès à son service, comme le souhaitait Héra. Héraclès, évidemment, refuse. Cet Eurysthée est trop minable. Et lui, Héraclès, se considère comme un homme libre. Par scrupule quand même, Héraclès va consulter le dieu Apollon dans son temple de Delphes pour savoir ce qu'il doit faire. Il sait qu'Apollon lui révélera la décision de son père Zeus. La prêtresse d'Apollon déclare à Héraclès qu'il doit se mettre au service d'Eurysthée pendant 12 ans et qu'ensuite il deviendra immortel. 12 années d'esclavage. Cette révélation plonge Héraclès dans une très profonde dépression, malgré l'immortalité promise. Mais Héra va trouver un moyen effrayant, très cruel, d'obliger Héraclès à se mettre au service d'Eurysthée. Héra va détruire la famille d'Héraclès de la manière la pire. Elle va faire d'Héraclès le bourreau de sa femme, de ses enfants, dans une scène de folie sanguinaire. Dans sa pièce de théâtre, Héraclès furieux, le poète tragique Euripide a présenté la folie qui s'abat sur Héraclès. On a affaire à une sordide machination divine.
Malheur, malheur, Héraclès est devenu fou. Fuyez, enfants, sauvez-vous. Horrible, horrible, Héraclès furieux. Héraclès, aveuglé par la folie, poursuit sa femme et ses enfants sans les reconnaître. Horrible, horrible.
Pour arriver à ses fins, la déesse Héra a envoyé à Thèbes sa messagère, Iris. Iris apparaît au théâtre. Elle est portée dans les airs par une machine. C'est son mode opératoire normal, puisque Iris, pour les Grecs, est le nom de l'arc-en-ciel. Iris est accompagnée de la divinité de la rage, du délire furieux, Lussa. Lussa, ce nom rappelle la louve. Ce n'est pas une divinité de la clarté, comme la céleste Iris, mais une puissance ténébreuse qui répand l'obscurité. Lussa est la fille de la déesse Nuit. Iris se présente. Elle se veut tout d'abord toute gentille. Elle rassure les vieillards du cœur que leur apparition dans le ciel de Thèbes, là où habite Héraclès, avait terrorisé.
« N'ayez pas peur, vieillard. Vous voyez la fille de la nuit, Lussa, et moi, la servante des dieux, Iris. Nous ne sommes pas venus détruire la ville. Notre expédition vise la maison d'un seul homme, Héraclès, celui qu'on dit né de Zeus et d'Alcmène. »
Puis la messagère annonce ce qui va arriver à Héraclès. Iris donne des ordres à la déesse Lussa.
Héra veut qu'il se couvre d'un sang nouveau en tuant ses enfants. Je le veux aussi. Allons, Lussa, avec ce cœur que rien n'amollit, vierge née de la nuit sombre, interdite de mariage sur cet homme, dirige des folies, des bouleversements tueurs d'enfants dans son cœur, fait bondir ses pieds, ébranle, lâche les amarres du meurtre, pour qu'en faisant passer le détroit de l'Achéron à sa couronne de beaux enfants par un meurtre commis par lui, il sache quel ressentiment Héra a contre lui et comprenne le mien. Les dieux compteraient pour rien et les mortels seraient grands s'ils n'étaient pas punis.
En fait, si Iris est d'accord avec Héra pour punir Héraclès, pour l'humilier en détruisant sa famille, c'est par pure jalousie, par pure mesquinerie. Héraclès, fils de Zeus, est trop fort, trop puissant et pourrait porter ombrage aux dieux. Il pourrait leur nuire. Contre toute attente, la déesse Lussa, déesse de la rage, de la folie, est la seule raisonnable dans cette scène. Elle argumente contre la mission que lui confient Iris et Héra. Elle rappelle qu'Héraclès, fils de Zeus, fort comme il est, peut rendre encore de grands services et il n'a commis aucun crime.
Je viens d'un père et d'une mère de bon lignage, étant né de nuit et du sang de ciel Uranos. J'ai cette fonction, ne pas être aimé des miens, et je n'ai pas de plaisir à fréquenter les hommes que j'aime. Je veux, avant de vous voir trébucher, vous conseiller, Héra et toi, si vous pouvez écouter mes paroles. Héraclès n'est pas sans distinction sur la terre, ni chez les dieux.
Iris ne l'écoute pas, elle est tranchante.
L'épouse de Zeus ne t'a pas envoyé ici pour faire la raisonnable.
Lussa n'a pas le choix, elle s'exécute. Elle déverse la folie, la rage sur Héraclès, qui entre dans une danse sauvage, incontrôlée, et se prépare à tuer femme et enfant.
Que le soleil témoigne pour nous. Je fais ce que je ne veux pas faire. Mais je suis forcée de vous servir, Héra et toi, de faire vite corps avec vous dans un sifflement, comme les chiens avec le chasseur. Alors j'y vais. Ni la mer qui gémit et ses flots, ni la vibration de la terre, ni l'aiguillon de la foudre ne soufflent des douleurs aussi violentes que les courses que je vais courir sur la poitrine d'Héraclès. Je vais mettre le palais en pièces et me jeter sur sa maison en tuant d'abord les enfants. Et le tueur ne se connaîtra pas, destructeur des fils qu'il a conçus avant d'avoir quitté mes délires. Là, regarde, il s'élance de la ligne de départ en secouant la tête. Il distord et fait rouler silencieux ses yeux de gorgone. Il ne contrôle pas son souffle, pareil à un taureau qui charge, terrible, ses mugissements pour invoquer les démons du Tartare. Bientôt je te ferai danser plus encore et jouerai pour toi de ma flûte d'effroi. Rends-toi sur l'Olympe, Iris, en soulevant ton noble pied. Nous allons plonger, invisibles, dans la maison d'Héraclès.
Héraclès se déchaîne, tue ses fils et sa femme Mégara, puis il tombe dans un profond sommeil. Quand il se réveille, il est perdu, effrayé et accablé. Il reste longtemps prostré, sans rien faire.
Oh, les dieux! Les dieux!
Ne blasphème pas, Héraclès.
Ce ne sont pas tous les dieux à qui tu dois ton mauvais sort, mais seulement...
Oui, seulement l'illustre jalouse, la grande dame de l'Olympe. Parce que Zeus a connu ma mère, elle se venge sur moi, le sang reproche. Qu'elle soit heureuse, qu'elle danse, qu'elle fasse sonner sous ses talons le plancher des dieux. Et moi... J'en meurs.
Puis finalement, la douleur commence à s'adoucir. Il se résigne à aller chez Eurysthée et à se mettre à son service. Eurysthée, pour les 12 années d'esclavage d'Héraclès, va lui imposer 12 travaux, tous plus impossibles les uns que les autres.
Empire over every heart she gave.
Pierre Judet de la Combe parle d'Héraclès, le grand explorateur.
Héraclès est devenu un proscrit. Il n'a plus de famille, plus de cité, plus de lieu à lui. Il n'a plus aucune attache et n'en aura jamais. Il est un grec errant. Même si le crime qu'il a commis contre sa femme et ses enfants était involontaire, dans un délire imposé par Héra, il reste qu'Héraclès est coupable, horriblement coupable, et ne peut plus vivre librement. Mais, et c'est l'un des paradoxes de cet Héraclès, cet esclavage cruel va faire toute sa gloire et va le conduire à l'immortalité. Pendant ses 12 années au service d'Eurysthée, Héraclès va libérer le monde des monstres et méchants hommes qui l'encombrent. Il va le rendre vivable pour l'humanité. S'il était resté dans son bonheur à Thèbes, s'il était resté libre, il n'aurait pas accompli tout cela. Ces 12 travaux, dont il est sorti chaque fois vainqueur, vont mener Héraclès partout dans le monde, de l'est à l'ouest, du sud au nord. Il va parcourir toute l'étendue terrestre et marine du monde. Ses explorations rendront cette immense étendue praticable, débarrassée de ses monstres et ouverte aux humains. Grâce à Héraclès, le monde sera plus doux. C'est ce que rappelle le poète Pindare.
Le fils d'Alcmène est allé jusqu'à l'Olympe. Il avait exploré tous les pays, exploré la paume, bordée de précipices, de la mer grise. Il en avait adouci le passage pour les navigateurs.
Le premier des 12 travaux a lieu près de la ville d'Argos, dans le Péloponnèse. Eurysthée demande à Héraclès de tuer le lion qui ravageait la région de Némée. Une légende affirme que ce lion a été élevé par Héra, qui préparait ainsi ce combat qu'Héraclès était censé perdre. Par chance, un poète du 3e siècle avant Jésus-Christ, on ne sait pas trop bien qui, peut-être Théocrite, nous raconte ce premier travail, le combat contre le lion de Némée. C'est une vraie chance, ce poème. La lutte contre le lion de Némée est le seul travail d'Héraclès pour lequel nous possédons un long et beau récit poétique. Les autres travaux ne nous sont connus que par de brèves notices ou par des peintures sur des vases. Ce poète, Théocrite ou un autre, inconnu, fait parler Héraclès lui-même.
Ce fut la première épreuve qu'Eurysthée m'ordonna d'accomplir. Tuer la bête affreuse. J'emportai la corne d'un arc bien souple et le creux d'un carquois plein de flèches, et je m'en allai. Dans l'autre main, j'avais un bâton ferme, taillée dans un olivier greffé aux branches lourdes. Il y avait l'écorce et tout le cœur de l'arbre. Je l'avais trouvé au pied du très divin Hélicon et l'avais arraché entier avec ses denses racines.
Héraclès s'arrête d'abord chez un paysan très pauvre et passe la nuit chez lui. Les grands héros connaissent cela. Avant l'exploit, il faut un temps d'arrêt, de suspens, qui les met pendant quelques heures hors de leur monde habituel, comme une veillée d'armes et d'initiation. Puis, reprenant son chemin, Héraclès cherche la bête. Le lion est longtemps invisible. Soudain, en fin d'après-midi, il apparaît.
Avant le crépuscule, il marchait vers sa caverne. Après son repas de viande et de sang, sa chevelure souillée était éclaboussée par ses meurtres, ainsi que son visage, où brillaient ses yeux et sa poitrine. Avec la langue, il se léchait les joues.
Héraclès se cache, tire une flèche, pour rien. La pointe n'entame même pas la peau du lion. Même chose avec un second tir. Héraclès s'apprête à tirer une troisième flèche.
Le cœur plein d'un terrible dégoût, j'allais tirer la corde de l'arc une troisième fois. Elle me vit dans l'éclat tournoyant de ses yeux, la bête ardente. Elle enroula sa grande queue autour de ses jarrets et pensa tout de suite à la bataille. Tout son cou était empli de colère. Ses crins rougeoyants se hérissèrent. Alors qu'elle grondait, son échine s'incurva comme un arc. Tous les lieux de son corps se recroquevillèrent sous ses flancs et ses hanches. Le lion terrible lança de loin son corps ramassé dans l'envie de goûter ma chair. Mais moi, d'une main, je tenais face à lui mes flèches et mon manteau double pris sur mes épaules. De l'autre, je levai au-dessus de ma tempe la massue bien sèche et j'atteignis sa tête. Le bois raboteux de l'olivier sauvage se fendit en deux sur le crâne touffu de la bête invincible. Avant d'arriver à moi, elle tomba de haut sur le sol et se figea là, sur ses pieds tremblants, la tête penchée. L'ombre vint cercler ses deux yeux. Le coup avait ébranlé sa cervelle dans les os de sa tête. Quand je compris que ses lourdes douleurs égaraient son esprit, je n'attendis pas que le souffle fasse retour en lui. Je montai à l'arrière de son cou que rien ne pouvait briser. Je jetai à terre l'arc et le carquois bien cousu. De mes mains trapues, je l'étreignais avec force, tiré par derrière, pour que ses griffes ne me déchirent pas les chairs. Debout, sur ses pattes arrière, je le calai avec mes talons contre le sol. Mes cuisses contrôlaient ses flancs, jusqu'au moment où, les bras tendus, je le tienne bien droit et sans souffle. Les enfers monstrueuses s'emparèrent de son âme.
Héraclès est vainqueur. Il lui faut encore enlever la peau du lion pour qu'il puisse s'en revêtir. Elle est tellement résistante qu'il ne pourra l'arracher qu'en utilisant les griffes de la bête. Eurysthée, le méchant cousin, n'en revient pas. Il est effrayé par la peau de la bête et par Héraclès. On dit qu'il lui interdit d'entrer dans sa ville et qu'il lui ordonna de laisser dehors tout ce qu'il pourrait prendre. On dit même qu'il se cacha dans une jarre de bronze qu'il avait fait enterrer. Eurysthée n'osa pas dire lui-même à Héraclès quel serait le deuxième de ses 12 travaux, mais il demanda à un autre de transmettre ses ordres. Cet autre portait le triste nom de Copréus, le merdeux. Le deuxième des 12 travaux a lieu également près de la ville d'Argos. Cette fois, il s'agit de tuer un monstre qui vivait dans une eau stagnante, dans un étang, à Lerne. On appelle ce monstre l'hydre de Lerne. C'était un serpent, ou plutôt un animal énorme à tête de serpent. Il en avait 9. Une de ses têtes était immortelle. On dit parfois qu'il avait 100 têtes. Ce monstre ressemblait à son père, le dieu Typhée, ou Typhon, un dieu féroce, également à tête de serpent, qui fut le dernier et redoutable adversaire divin de Zeus. On dit que Héra l'a élevé comme elle a élevé le lion de Némée pour nuire à Héraclès. Le problème avec ce monstre est que ses têtes repoussaient dès qu'Héraclès arrivait à en briser une avec sa massue. Héraclès eut alors une idée. Il était accompagné d'un jeune homme qui lui servait de cocher. Ce jeune homme était son neveu, Iolaos, le fils de son frère quasi-jumeau. Héraclès lui demanda de mettre le feu à la forêt de Lerne et, avec des bois enflammés, de brûler la racine de chacune des têtes qu'il avait brisées. La tête, alors, ne repoussait pas. Quant à la tête immortelle, Héraclès la coupa et l'enfouit sous une très grosse pierre à jamais. On n'en parle plus. Puis Héraclès prit le corps immense de l'hydre. Il l'ouvrit et plongea chacune de ses flèches dans la vésicule biliaire de la bête. La bile de ce monstre était un poison mortel. Chaque flèche tirée par Héraclès allait donc être une porteuse infaillible de mort. Ce qu'Héraclès ne pouvait savoir, c'est qu'il serait lui-même beaucoup plus tard victime de ce poison. Lors de cette lutte contre l'hydre, un gros crabe s'en est mêlé et a attaqué Héraclès en lui pinçant le pied. Ça ne dérange pas trop notre héros qui se débarrasse vite du crabe en l'écrasant. Mais la déesse Héra est tellement reconnaissante envers ce crabe qui a voulu aider l'hydre qu'elle le transforme en constellation dans le ciel. C'est bien visible, le cancer. Eurysthée n'est pas satisfait. Selon certains récits, il chipote et refuse d'enregistrer l'exploit. Il déclare qu'Héraclès n'a pas obéi à son ordre, puisqu'il s'est fait aider par son neveu, le jeune Iolaos. Mais arrive le troisième travail. Il s'agit encore d'un animal, une biche très rapide. Elle appartenait autrefois à un groupe de 5 biches bondissantes qui broutaient en Arcadie près d'un torrent. Elles étaient belles, fortes, plus imposantes que des taureaux. L'or illuminait leurs cornes. Un jour, la toute jeune déesse Artémis, qui courait les montagnes de l'Arcadie, les aperçut et fut fascinée par elles. La déesse les prit en chasse, courut longtemps. Elle fut la plus rapide. Elle en attrapa 4 qu'elle maîtrisa. Depuis, elles sont attelées à son char. La 5e, Artémis la laissa partir. Héra, la déesse, le voulait. Elle voulait que cette biche, plus tard, soit l'occasion d'un des travaux d'Héraclès. Et c'est ce qui arriva. Héraclès débusque la bête, la met en fuite et la poursuit. Il court après elle pendant une longue année. Le poète Pindare dit que la biche l'a amené très loin, dans le nord, dans le pays des gens qu'on appelle les Hyperboréens, les gens au-delà du nord, un pays mystérieux qui borde le monde. Il est situé au-delà même de ce que l'on connaît comme le lieu d'origine du terrible vent du nord, que les Grecs appelaient le Borée.
Dans sa course après elle, il vit aussi cette terre fameuse qui est au-delà des souffles du froid, Borée.
Pindare dit que ce lieu abrite les sources du Danube. C'est un pays légendaire et béni, une limite, on ne va pas au-delà. Pindare dit qu'à cette occasion, Héraclès fut frappé par la beauté du lieu, et notamment par ses arbres, des oliviers pleins de sève, alors que sa terre de Grèce était sèche, dénudée, brûlée par le soleil.
Là, il se figea, émerveillé par les arbres.
Héraclès, devant ces arbres merveilleux qu'il ne connaissait pas, eut alors une idée. On peut s'étonner de trouver des oliviers, arbres normalement du sud, dans un pays aussi loin vers le nord. Mais au-delà du froid boré, on est au-delà du nord connu. On est dans un monde fabuleux. Héraclès se dit que plus tard, quand il créerait les Jeux Olympiques, il avait déjà ce projet en tête, il allait planter ses oliviers magnifiques hyperboréens à Olympie, en Grèce, là où il établirait ses grands jeux en l'honneur de son père, Zeus. Ces oliviers, se disait-il, borderont la piste utilisée pour l'épreuve la plus noble, la plus spectaculaire des jeux, la course de chars. Héraclès se dit qu'il planterait ces arbres merveilleux à l'endroit crucial de la course, à savoir autour de la borne, qui marque le lieu où les concurrents doivent faire demi-tour. C'est le point le plus critique, le plus important dans cette course ultra rapide et risquée.
Un doux désir pour ces arbres le prit. Les planter au bout de la course des chevaux, là où elle tournera 12 fois.
La course avec la biche, jusqu'à sa borne extrême, le pays heureux et fabuleux des Hyperboréens, servira donc de modèle pour la grande course des Jeux Olympiques qu'un jour Héraclès allait fonder. La biche, dans sa course jusqu'à cet endroit fabuleux, lui a fait connaître une limite du monde d'où il faut nécessairement revenir, les yeux pleins de merveilles. Exactement comme dans la course de char à Olympie, il faudra revenir pour la victoire après avoir viré la borne à l'autre bout de la piste. Ce virage se fera à l'ombre bénéfique des oliviers hyperboréens. Le stade olympique qui sera créé par Héraclès va donc reproduire symboliquement la structure du monde avec sa limite extrême telle qu'Héraclès l'a parcourue dans sa course après la biche. Cette longue année de poursuite a épuisé la biche. Héraclès, sans la tuer, l'immobilise et la ramène vivante sur ses épaules à Eurysthée.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de la Combe. Pierre Judet de la Combe parle d'Héraclès, l'invincible.
Et comment veux-tu que nous te prouvions que mes copains et moi, nous sommes des dieux ?
Avez-vous entendu parler d'Hercule ?
Hercule Minus, le marchand d'enfants ?
Non. Le dieu Hercule. Il réalisa 12 travaux qui lui valurent d'être admis dans l'Olympe, les dieux le reconnaissant pour un des leurs.
12 travaux ? Quels travaux ?
Le quatrième des 12 travaux met encore Héraclès aux prises avec un animal sauvage. Cette fois, c'est un énorme sanglier qui est particulièrement dévastateur. Eurysthée demande à Héraclès de ramener la bête vivante. Elle sévissait sur le mont Érymanthe, à la frontière ouest de l'Arcadie. Encore une fois, Héraclès va gagner. Mais cette histoire commence très mal, avec un triste désastre qui frappe des centaures, ces êtres mi-homme, mi-cheval. En chemin, pour le lieu où gîte le sanglier, l'Érymanthe, Héraclès passe par la maison d'un dénommé Pholos, un centaure qui est plutôt sympathique et accueillant, alors que la plupart des centaures sont des brutes sauvages, peu civilisées, lubriques, colériques et agressives. Ce gentil centaure propose l'hospitalité à Héraclès. Par sa nature, il est sauvage, puisqu'à ce repas d'hospitalité, il mange de la viande crue. Mais à Héraclès, il propose de la viande pour civiliser, passer au feu. Par ailleurs, il possédait une jarre pleine d'un vin fabuleux. Elle avait été laissée chez lui 4 générations auparavant par Dionysos lui-même. Or, Dionysos avait dit qu'il ne fallait ouvrir cette jarre que le jour où Héraclès viendrait. Dionysos avait prévu qu'Héraclès aurait un fort penchant pour la boisson. Ce jour est arrivé. On ouvre la jarre. Une odeur merveilleuse en sort et se répand. Cette odeur atteint les centaures qui vivaient dans les alentours. Elle les attire. Ils se précipitent en masse vers la maison de ce Pholos. Les centaures sont impatients, violents, et veulent à tout prix s'emparer du vin. Ils ne connaissent aucune règle. Frénétiques dans leur envie de boire, ils attaquent la maison avec des pierres, des troncs d'arbres, des torches, des haches. Héraclès le repousse avec des boises allumées, puis avec son arc. Il en tue beaucoup. Mais le carnage n'est pas fini. Les centaures survivants se sont enfuis et réfugiés chez un autre centaure, qui lui était sage, instruit, un grand savant en science, en morale, en médecine. C'était le centaure Chiron. Il était célèbre pour avoir éduqué tant de héros, dont Achille et Jason. Mais en voulant tuer les méchants centaures, Héraclès, sans le vouloir, décoche une flèche contre ce Chiron. Il l'atteint en plein genou. Blessé, Chiron souffre effroyablement. Cette flèche a en effet été empoisonnée par Héraclès, qui l'avait plongée dans le ventre de l'hydre de Lerne. Aucun des 1000 remèdes connus par Chiron n'est efficace. Et comme, à la différence des autres centaures qu'Héraclès a tués, Chiron est de naissance divine et donc immortel, il sait qu'il va souffrir éternellement. Chiron demande alors grâce. Il dit qu'il est prêt à échanger son immortalité de Dieu contre la mort. Ainsi, il sera délivré. Zeus, le roi des dieux, le lui accorde. Cet échange, l'immortalité contre la mort, est absolument unique dans l'histoire des dieux. Chiron meurt. Une autre mort vient attrister encore cette histoire de centaure. Pholos, le centaure qui avait accueilli Héraclès, qui lui a servi le vin à l'origine de tout ce massacre, voit sa maison encombrée de cadavres de centaures qu'Héraclès a tués avec ses flèches. Il examine un cadavre, en retire la flèche qu'il a tuée et s'étonne qu'un objet si ténu, si fin, et puis abattre une masse pareille. Les centaures, des brutes au corps massif, n'étaient pas très bons en connaissance des armes et des techniques en général. Maladroit, Pholos laisse tomber la flèche d'Héraclès sur son pied. Cette flèche, comme les autres, était empoisonnée. Le pauvre Pholos, qui lui n'était pas immortel, meurt sur le coup. Héraclès le fort a vaincu les centaures, ces êtres hybrides, sans identité bien établie, à la fois hommes et chevaux, mortels ou immortels. Pour la plupart, ce sont des êtres frustes, impétueux, bêtement dominés par leurs désirs. Mais dans sa violence sans merci, acharnée et qui se voulait efficace, Héraclès a apporté la mort à deux des êtres les plus précieux de la Terre. Deux centaures. L'un était hospitalier et généreux, Pholos. L'autre, Chiron, était un grand savant, porteur de tant de bienfaits pour l'humanité. Héraclès n'est pas encore clairvoyant. Il n'a pas été très différent des êtres incontrôlés qu'il a tués. Après toutes ces morts, il restait encore à capturer vivant le grand sanglier Dérimante. Là, au moins, il n'y avait pas de scrupules à avoir. Ce sanglier n'était qu'une bête méchante. Le problème était purement technique. Il fallait le garder vivant, trouver la méthode précise et juste pour ne pas le tuer et ne pas se faire tuer. Héraclès doit alors développer son intelligence tactique. Il trouva le sanglier sur le mont Erymanthe. Pour le sortir de sa bauge, il hurla et il le fit courir dans la neige où la bête s'embrouilla les pattes. Héraclès n'eut qu'à le cueillir dans un filet et il le porta sur ses grandes épaules. Quand Eurysthée vit la bête, qui n'était pas morte, il prit peur encore une fois et plongea au fond de sa jarre de bronze. Avec le travail suivant, le cinquième, Eurysthée changea de registre. Il ne demande plus à Héraclès d'affronter des bêtes extraordinaires, plus grandes que nature. Le cinquième des 12 travaux est de nature rurale et domestique, même si, encore une fois, il est gigantesque. Eurysthée demande à Héraclès d'aller nettoyer en une journée les étables d'un fils du dieu soleil, Augias. Cet Augias avait de très nombreux troupeaux de bovins, bœufs, taureaux, vaches, sans compter les moutons. Les étables d'Augias débordaient de fumier. On dit couramment les écuries d'Augias, mais il ne s'agit pas de chevaux. Ou alors, comme elles sont très sales et très négligées, il faudrait dire les incuries d'Augias. Le soir, quand les vaches rentrent pour la traite, tout le pays est envahi par le bétail infini et mugissant. C'est ce que nous décrit un poète, celui que l'on a entendu pour la lutte avec le lion de Némée. Héraclès, qui s'est rendu chez Augias pour accomplir son travail, est stupéfait par la taille de ses troupeaux.
Le soleil tourna ensuite ses chevaux vers les ténèbres, amenant le jour crépusculaire. les brebis grasses apparurent, s'en revenant des prairies vers les bergeries et les parcs. Puis se montrèrent les vaches, par mille milliers, les unes à la suite des autres, pareilles aux nuages chargés d'eau qui vont dans le ciel, poussées plus avant sous la contrainte du vent du sud ou du boré de Thrace. Nuages qui passent dans les airs, sans connaître de nombre, sans fin, tellement. Après les premiers, la force du vent enroule de nouveau, levant leurs crêtes l'une contre l'autre. Pareil, troupeaux de vaches succédaient aux troupeaux. La plaine était toute remplie, tous les chemins étaient pleins du bétail en marche. La grasse campagne s'étouffait en beuglement. Les étables furent vite pleines des bovins qui tournent au bout du sillon.
Ces troupeaux immenses produisent un immense fumier qu'il faudra bien nettoyer un jour. Il y a là une sorte d'ironie. Augias, le propriétaire de ce bétail, est d'origine solaire. Il est fils du dieu soleil. Son nom, Augeias en grec, évoque le nom des rayons lumineux de son père, qu'on appelait Augai. Il existe un lien traditionnel fort entre le soleil et les vaches. Le dieu soleil possède dans l'Odyssée un troupeau de vaches sacrées qu'il ne faut surtout pas dévorer, elles sont tabous. Ce que vont oublier pour leur malheur les compagnons d'Ulysse. Les vaches étaient pour les Grecs de haute époque l'emblème même de la richesse, de la réussite. On pouvait les considérer comme l'une des manifestations de la puissance universelle, généreuse et créatrice du soleil, puisqu'on disait du soleil
qui nourrit la force féconde de la terre.
Mais il reste que ces vaches solaires produisent, comme toutes les vaches du monde, des excréments, et qu'il faut s'en débarrasser. Augias peut briller et resplendir, il est cerné par le purin. Les mythes adorent ce genre de contradictions. Ils aiment aller voir sous les choses. Eurysthée impose cette tâche à Héraclès en pensant l'humilier. Lui, le fils glorieux de Zeus, devra transporter de la bouse. Mais Héraclès trouve une solution qui lui permet de rester les mains propres. À côté des étables, coule un fleuve, l'Alphée. Avec sa force musculaire, Héraclès creuse un canal et arrive à détourner l'eau de ce fleuve. Il la fait passer dans les étables d'Augias, qui sont ainsi débarrassés du fumier. Il y a une embrouille concernant ce travail. On dit qu'Héraclès s'est présenté à Augias en lui proposant ses services, moyennant salaire. Augias aurait accepté. Mais après le travail, Augias découvre qu'Héraclès n'était en fait pas venu librement comme travailleur indépendant, mais par ordre d'Eurysthée. Il n'avait donc droit à aucun salaire. Héraclès ne l'entend évidemment pas de cette oreille. Comme il n'est pas très pacifique, une guerre s'ensuit. Augias sera éliminé. Nous en sommes là. Le cinquième travail est achevé. Il y en a encore sept. Les plus intéressants nous mèneront au bord du monde, du côté du couchant, vers les ténèbres et la mort, et même aux enfers. Héraclès s'en sortira. Ce sera, si vous le voulez, le prochain épisode. Héraclès trompe la mort.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Antoine Viossa et le mixage par Valérie Lavalard. Bonne journée sur France Inter.